Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir, alors voilà, nous allons continuer cette fois-ci avec le Nouveau Testament. Vous vous souvenez que la première leçon, j'avais essayé de donner un cadre un peu dogmatique en partant du catéchisme. Alors la distinction principale que je voulais faire ressortir à partir du catéchisme, c'était l'idée qu'il y a un mal physique et un mal moral, oui, et qu'il ne faut pas confondre les deux. Il y a le mal physique de la finitude, voilà, que nous sommes mortels, etc., que nous pouvons avoir des maladies, tout ça c'est un mal physique, et puis il y a le mal moral, qui est le mal donc que nous faisons avec notre liberté, avec notre responsabilité. Voilà, ça c'était une première grande distinction dogmatique que je voulais faire apparaître. Et puis nous avons été à l'Écriture, l'Ancien Testament, la Genèse, Genèse 2 et 3, et puis 2 Samuel 11 et 12, le péché de David par rapport à Bethsabée. Et maintenant nous prenons le Nouveau Testament. Alors bien sûr, avec le Nouveau Testament, nous basculons dans une nouvelle révélation, si on veut, qui continue la précédente, bien sûr, qui ne nie pas la précédente, mais quand même avec une nouveauté radicale, avec l'apparition de Jésus-Christ. Alors je vous rappelle aussi que il y a un peu les concepts dogmatiques, voilà, le péché originel, la grâce, etc., la protologie, ce qui se passe au début, l'eschatologie, ce qui se passe à la fin, ce sont des concepts. Et puis il y a des récits. La Bible travaille beaucoup plus par récit que par traité dogmatique. La Bible n'est pas un traité dogmatique, ce sont des récits. Alors il faut des récits, mais il faut aussi des concepts, il faut les deux, parce que le récit, si ce n'est qu'un récit, risque de tomber un peu dans l'anecdote, dans le fait divers et tout. Bon, on se dit, voilà, c'est une histoire, il y en a 36 000 autres, etc. Mais si on n'a que des concepts, alors on a un peu quelque chose de très sec, de très construit comme un mécano, et ça ne prend pas vie. Il faut les deux. Il faut les deux. C'est la Bible qui est la plus importante, avec le récit. Mais de ces récits, en les méditant, on peut tirer certaines idées plus générales, certains concepts, etc., certains symboles aussi. Et ensuite, ils aident à lire les autres histoires de la Bible. Mais c'est d'une certaine manière le récit qui prime. Mais, comme je disais, en rapportant un peu ce que Kant dit, les intuitions sans les catégories sont aveugles. Mais les catégories sans les intuitions sont vides. Voilà, il faut la réalité et les concepts. Les concepts seuls sont vides, la réalité seule est pleine mais désorganisée, aveugle. Il faut les deux. Alors il y a quatre paragraphes dans cette leçon. Exultation de la création dans le Christ. Je vais prendre les deux hymnes d'Éphésiens et de Colossiens. Ce sont donc deux prières, deux chants magnifiques, que saint Paul rapporte dans Éphésiens et dans Colossiens au premier chapitre, et qui parle de la création. Alors Dieu au risque du mal, c'est bien sûr pourquoi est-ce qu'il y a le mal dans le monde, mais c'est aussi pourquoi est-ce que Dieu a créé. Il n'y a pas que le mal d'abord tout de suite, il y a d'abord la création qui est bonne. Dieu vit que cela était bon, que cela était très bon. Donc je vais souligner dans cette première partie que la création est vraiment quelque chose qui est appelé à la joie, à la joie de communion avec Dieu et avec Dieu Père en particulier. Et ensuite les trois autres paragraphes, c'est en me guidant sur la première semaine des exercices spirituels de Saint Ignace que je vais ordonner cela. L'Ancien Testament donnait beaucoup d'idées du Dieu créateur. Tout au début de la Genèse, il y a le Dieu qui crée par la parole, chapitre 1. Le Dieu qui crée comme un potier, je vous l'ai dit, en modelant la terre, en soufflant dessus. Mais il y a très peu, très très peu, deux ou trois allusions, je crois, à un Dieu qui serait père. Or, dans le Nouveau Testament, c'est cela qui vient. La foi chrétienne nous parle d'un Dieu créateur, oui, mais finalement, le Nouveau Testament ne s'intéresse pas particulièrement à la métaphysique de la création, à la création ex nihilo, comme on dit. Hein. Est-ce que Dieu a créé de rien? Est-ce qu'il a créé d'une matière préexistante? Tout ça, ça n'intéresse pas beaucoup le Nouveau Testament. C'est la connotation de père, la paternité. Dieu crée parce qu'il est père. Le credo, comme vous savez, affirme tout au début, hein, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. » Alors parfois, le Tout-Puissant fait un peu craindre le Père, hein, mais il ne faut pas oublier que c'est un Père. Ce thème de la paternité divine nous vient évidemment tout droit, d'où? Eh bien évidemment, de la vie et des paroles de Jésus qui parlent de son Père. Jésus a vécu sur terre comme un homme qui connaît son Père. Partout, Jésus souligne la paternité de Dieu. Surtout chez Saint Jean, 118 fois le mot Père dans l'évangile de Saint Jean. Et cette idée de la paternité de Dieu nous indique bien une vision de la création du monde où il y a un dessein de communion, un dessein de relation. La volonté de Dieu, quelle est-elle lorsqu'il crée le monde? Il est Père. Il est Père et il veut que cette paternité eh bien, soit exercée, soit reconnue. Il veut donner ce qu'il a comme Père à ses enfants. Alors, dans Éphésiens et dans Colossiens, que nous allons lire, c'est là sur votre feuille, hein, nous allons lire cela. Faites bien attention dans la lecture que je vais faire aux termes qui se réfèrent plutôt au ciel, à l'éternité, etc., et aux termes qui se réfèrent plutôt à l'ici-bas, à la création, au temps, etc. Vous allez voir qu'il y a une tension entre les deux. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Trois fois le mot bénédiction. Donc vraiment là, on se réjouit de ce qui est. Qu'est-ce qui est? Eh bien, c'est Dieu qui est là, qui nous a bénis et nous le bénissons. Ce verset est trinitaire, comme vous voyez. Hein? Le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a le Père et Jésus-Christ qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles. Allusion à l'Esprit-Saint. C'est ainsi que lui, le Père, nous a élus en lui dès avant la création du monde. Dès avant la création du monde. Pour être saint et immaculé en sa présence dans l'amour. L'amour agapé, mot qui n'est pas fréquent dans le vocabulaire grec de la philosophie de l'époque. Agapé est un mot un peu nouveau. On connaît Eros, on connaît Storgé, on connaît Philia, mais on ne connaît pas beaucoup Agapé. C'est un mot que les chrétiens ont choisi pour décrire quelque chose de nouveau. Le mot existait, mais était très peu utilisé. Déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ah voilà, le Père va nous adopter comme fils dans son fils. C'est cette filiation qui est le dessein de Dieu finalement. En lui, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission de nos fautes, selon la richesse de sa grâce. Ah, il y a quand même une allusion au péché, au sang de la croix. Mais comme vous voyez, ce n'est pas comme ça que commence l'hymne. Nous sommes au verset 7 et l'hymne au verset 3 parle de bénédiction, etc. Il y a donc une allusion à cette rédemption, au mal qui existe, oui. Mais tout de suite, on recommence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ. Chef, c'est tête. Le chef, en français aussi, ça peut désigner la tête. Eh bien, il est la tête. Et nous sommes, nous, les membres de son corps. Voilà, ce dessin, finalement, c'est de récapituler. Dans récapituler, vous trouvez caput, la tête, hein, remettre sous la tête toute chose, sous cette seule tête qu'est le Christ, le Fils, hein, le Fils unique, en lequel nous sommes nous-mêmes fils adoptifs. Ça, c'est vraiment le dessin de Dieu créateur. C'est pas un Dieu de philosophe, c'est pas un Dieu mythologique, c'est un dieu paternel. Dès avant la création du monde. Donc il y a un dessein qui précède la création du monde. Un dessein qui est formé d'avance. Il y a une création matérielle, il y a une création visible, mais donc il y a aussi un monde invisible, un monde divin, qui est là avant la création. Et c'est dans ce dessein que nous sommes créés. Et ça veut dire que c'est en tant qu'être spirituel que Dieu nous a créés. Alors bien sûr, il y a le monde matériel, mais ce monde matériel est comme le support, le socle, qui est nécessaire pour nous poser, nous, comme être, bon, de chair et de sang bien sûr, mais comme être spirituel. C'est d'abord le dessein spirituel de Dieu qui est premier. Il n'a pas envie d'abord de créer des galaxies et tout ça, non. Il a envie d'abord d'être en communication avec des êtres spirituels qui, s'ils sont incarnés comme nous le sommes, eh bien, ont besoin d'un monde matériel, comme décor de ce théâtre. C'est une image que prend Balthazar. Le monde est finalement un grand théâtre. Et c'est le drame humain, le drame des êtres spirituels qui se joue, qui est le plus important. Barthes dit aussi que, dans une formule un peu plus abstraite, que la création est le fondement extérieur de l'alliance, tandis que l'alliance est le fondement intérieur de la création. Le fondement intérieur de la création, ça veut dire la motivation de la création, c'est l'alliance. Dieu veut faire alliance, une alliance paternelle. Tandis que la création, c'est le fondement extérieur de l'alliance. Voilà, il a besoin de ce terrain, si on veut, cette scène de théâtre pour que se joue ce drame ou cette alliance avec l'homme. Souvent, nous voyons plutôt l'inverse. On dit, Dieu a créé le monde, bon, là, il a créé le monde, et puis, un petit peu par hasard, tout à coup, il y a des animaux, puis il y a des hommes, et bien les hommes, ils sont vraiment minuscules sur ce monde de matériel, mais bon, ce qu'on voit, c'est le monde matériel, bien sûr, Et puis, il y a ces petits hommes minuscules, et bon, comment est-ce que Dieu peut s'intéresser à ces petits hommes minuscules? Bon, on se demande pourquoi. Mais non, c'est l'inverse qu'il faut voir. C'est l'inverse. C'est l'homme, c'est l'être spirituel que Dieu a en vue lorsqu'il crée. Et tout le reste, bon, ça peut avoir des dimensions extraordinaires, mais ça n'entre pas en communication spirituelle avec Dieu. C'est la communication spirituelle paternelle que Dieu cherche. Il ne cherche pas autre chose. Et si les êtres humains sont là, à l'image du Fils, eh bien c'est ça, la motivation de la création. Mais il y a tout un chemin qui doit se faire, tout un chemin. Je vais l'expliquer par une autre image à partir des termes hébreux. Mais lisons d'abord les Colossiens. Un peu dans la même ligne. Il est l'image, lui, le Christ, il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature. Il est le premier-né, prototokos. Le mot arrive 4 fois dans le Nouveau Testament. Prototokos, celui qui est engendré le premier. C'est en lui que furent créées toutes choses. Alors, regardez que j'ai souligné sur la feuille les « en », « par », « pour », qui montrent bien la dynamique de cette création. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose afin que tout subsiste en lui. Par, pour et en. Et c'est le Père qui crée, mais il crée dans le Christ, par le Christ et pour le Christ. Il est aussi la tête du corps, revient à cette image du caput, de la récapitulation. Il est la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. De l'Église, il est le principe, le premier-né d'entre les morts, de nouveau, prototokos. Car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute plénitude. Il s'est plu. C'est un bon vouloir de Dieu. C'est une bienveillance de Dieu. Il se réjouit. Il se réjouit de mettre toute sa plénitude dans le Fils et de faire partager par ce Fils cette plénitude à toutes les créations qui sont appelées à l'adoption filiale. Et par lui, il va réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix, de nouveau l'allusion à la croix. Mais comme je vous ai dit, cette allusion est elle est secondaire, peut-on dire, hein, par rapport à ce dessein de Dieu de communion qui est premier. Et de nouveau, dans ce second paragraphe, vous avez « par », « pour » et « en ». Ce qui montre bien en combien nous sommes impliqués, « involucrado », on dit ça en espagnol, ou hein, « involved », on est à l'intérieur de ce dessein. Hein. On est vraiment dedans impliqués. Mais ce dessein doit prendre un certain temps. Et alors, les lettres juives permettent de faire des jeux de mots. Hein. La création, c'est, comment dit-on, créer. Bereshit, bara Elohim, créer. Et comment dit-on, l'alliance, berit. Hein. Alors, on peut voir dans bara un terme, et dans berit, un autre terme, mais comme vous voyez, les deux premières lettres de chaque mot sont semblables, br, br, et la troisième lettre, c'est quoi? Aleph et Tav. Et qu'est-ce qu'elles ont en particulier, ces lettres? C'est la première et la dernière lettre de l'alphabet. Alors, comme vous voyez, c'est très spécial, hein, mais les juifs aiment bien jouer avec les lettres, hein, c'est la gématrie, c'est la loi, etc. Donc, c'est la même chose, sauf que ici c'est le début et là c'est la fin. La création c'est le début et l'alliance c'est la fin. La fin au sens de fin chronologique, mais aussi fin, la finalité, quoi. Hein, le but qu'on poursuit. On crée, il y a un début, matériel si on veut, et on atteint un but qui est finalement la communion spirituelle. Voilà, donc cette vision est une vision cosmique, une vision grandiose, hein, une vision énorme, où le Père, par avance, nous a destinés, nous, avant la création du monde, à communier avec lui dans son Fils bien-aimé. Il y a tout un poids, hein, à tous ces termes des hymnes. D'ailleurs, ces hymnes sont reprises dans le Bruvière, hein, on les chante régulièrement, hein, au long des quatre semaines. Et donc, il y a tout un travail spirituel pour que cette création, qui est bonne, qui est même très bonne lorsqu'il s'agit de la création de l'homme et de la femme, hein, arrive à son terme, qui est l'alliance accomplie. Et chez saint Paul, donc, nous voyons dans ces hymnes une espèce d'exultation qui résulte de la foi dans ce Dieu créateur et père. Créateur, nous le disait l'Ancien Testament, et père, le souligne le Nouveau, à travers, cette alliance est faite à travers son Fils. Dieu, personne ne l'a jamais vu, dit saint Jean lui-même. Ce Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et c'est repris à peu près dans les mêmes termes dans la première épître de Jean. Alors, voilà donc un peu le dessein de Dieu. Voyons maintenant comment l'homme, hein, se sent impliqué dans ce dessein. Je prends le schéma des exercices spirituels. Dans la première semaine, comme je vous ai déjà dit, on médite le péché, son péché. Première semaine, le péché. Deuxième semaine, la vie du Christ. Troisième, la passion du Christ. Quatrième, la résurrection du Christ. Vous voyez qu'il étale les choses bien, bien au long. Et vous voyez qu'il prend une semaine pour la passion, hein, une semaine pour la résurrection. Il y a quand même une douzaine d'apparitions, hein, il faut les méditer une par une, par le menu, par le détail. Une semaine pour la vie du Christ, et d'abord une semaine sur, ben, est-ce que nous avons besoin de Christ? Est-ce que nous avons besoin du Christ? Est-ce que il va nous sauver de quelque chose? De quoi? Ben, on n'en sait rien. Ben, si on n'en sait rien, il faut apprendre à le savoir, hein. De quoi va-t-il nous sauver? Ben, du péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Eh bien, c'est ce qu'on regarde pendant la première semaine. Et saint Ignace, de manière très intéressante, me semble-t-il, ne nous fait pas d'abord méditer notre péché, mon péché, à moi, mais d'abord le triple péché, qui n'est pas le mien. Alors on va méditer, dit-il, d'abord le péché des anges. Lucifer, etc., le péché des anges. Et puis le péché de nos premiers parents. C'est la manière dont il appelle Adam et Ève. Et comme ça, ils les solidarisent bien l'un avec l'autre, hein, le péché de nos premiers parents. Hein. Parents, donc d'abord, ce sont des gens qui donnent la vie. Ils ne sont pas désignés d'abord comme des pécheurs, mais ce sont nos premiers parents. Et donc, ils ont fait une chose très bonne, hein, c'est de nous donner la vie. Et puis, le péché de tout homme, quel qu'il soit, pas le mien, tout homme. Moi, je médite votre péché, vous méditez le mien, etc. Mais on ne s'implique pas tout de suite. Hein. On médite d'abord le péché de tout homme, quel qu'il soit. Et puis comme ça, on entre dans la question de mon propre péché. Alors je vais prendre dans les trois paragraphes qui suivent, eh bien, ces trois indications de Saint Ignace, mais à l'envers. Le péché des anges viendra en quatre, si on veut. Hein. En trois, eh bien, le péché de nos premiers parents, la solidarité des hommes dans le péché. Et en deux, le mystère du péché de l'homme, je prends le péché de tout homme. Alors je décline cela de différentes manières. Voir ce qui est mal, ce n'est pas encore connaître le péché. Voir ce qui est mal dans le monde, ce n'est pas encore connaître le péché. Le péché, c'est autre chose. C'est quoi ? Mais beaucoup de gens disent, regardez les guerres, regardez les catastrophes, hein, c'est le mal. Oui, mais ça... Ça, ce n'est pas encore une vision très théologique qui va nous faire entrer dans ce que Saint Ignace nous propose. Hein. Bon, c'est peut-être un début, mais voir ce qui va mal, ce n'est pas connaître le péché. Ça, on est encore beaucoup trop extérieur. Avec la troisième leçon, hein, et David, cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi, chacun d'entre nous. Hein, cet homme, c'est toi. Eh bien, on voit qu'il faut s'impliquer. Hein. Donc voir ce qui est mal à l'extérieur de soi, ce n'est pas encore savoir de quoi le Christ va nous sauver. Et même, d'une certaine manière, même être conscient de sa responsabilité morale, etc., ce n'est pas encore se sentir pécheur ou savoir qu'on est pécheur. Ici, je voudrais bien faire une distinction entre se sentir fautif et se sentir pécheur. Je vais le faire à travers... un petit schéma qui indique les quatre dimensions anthropologiques de l'être humain. J'utilise souvent ce schéma parce qu'il me semble expliquer énormément de choses. Voilà, ce sont quatre dimensions qui sont à l'intérieur de l'homme, pas quatre dimensions séparées, hein, quatre dimensions bien sûr qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Je mets ici ce qui est physique, somatique, biologique, si on veut, bon, le corps. Ici, je mets le psychisme. Ici, je mets la raison, avec ces deux composantes, théorique, intelligence, et pratique, volonté. La volonté, c'est une faculté de la raison. N'a une volonté que quelqu'un qui a une raison. Un animal n'a pas de volonté. Alors oui, bon, il fait des choses, et il voit un truc, donc il court derrière, après ça l'intéresse, mais ce n'est pas une volonté. Hein. Il n'y a pas une délibération, il n'y a pas un choix de courir après ceci plutôt que cela, non. Donc la volonté est vraiment une faculté de la raison, qui s'appuie bien sûr sur une certaine intelligence. Et enfin, au-dessus, je mets l'esprit. L'esprit pneuma, très important dans... chez saint Paul, pneuma, hein, qui est aussi l'esprit de l'homme en rapport avec l'Esprit Saint. L'esprit, c'est, pourrait-on dire, ce qu'on appelle l'âme au niveau religieux. Hein. L'âme au niveau religieux, voilà, quand on parle des âmes, ou bien de l'âme immortelle et des choses comme ça, c'est ce niveau-là. D'accord ? Alors, pour Aristote, l'âme se trouve ici. Hein. Et l'animal a une âme, et même la plante, l'oignon a une âme, etc. Bon, ça c'est plutôt ici ce qui donne la vie, hein, l'âme en tant que ce qui anime. Mais l'âme en tant que, voilà, la faculté de rencontrer Dieu, de recevoir sa grâce et d'aimer, d'agapé. L'agapé n'est possible que par la grâce. Eh bien, c'est vraiment cette dimension-ci de l'être humain. Elles sont toutes, bien sûr, imbriquées l'une dans l'autre. Elles se construisent l'une sur l'autre, non pas comme des briques, hein, qu'on met l'une au-dessus de l'autre, mais comme un développement à partir de ce qui est inférieur vers ce qui est supérieur. Il y a des influences de bas en haut et de haut en bas, enfin, je ne peux pas tout vous expliquer, sinon on est parti pour un long chapitre. Mais justement, ce que je veux vous indiquer par là, c'est que la faute morale, elle se trouve à ce niveau-ci, tandis que le péché se trouve à ce niveau-ci. La faute se trouve au niveau 3, tandis que le péché se trouve au niveau 4. Pourquoi ? En fait, je dirais que quelqu'un qui, supposons, n'a pas la foi, ne connaît pas le Christ, etc., il a quand même une conscience morale. Hein ? Ici, il y a une conscience. Au niveau de la raison pratique, de la volonté, il y a une conscience du bien et du mal. Les philosophes parlent de cette conscience du bien et du mal, et donc il y a l'homme a une obligation de faire le bien et de ne pas faire le mal. Il le sait bien, il n'y a pas besoin pour ça de révélation, ni d'Ancien ni de Nouveau Testament. L'homme le sait, hein, par ce qu'il est. Mais le péché alors, donc la faute, c'est d'aller contre cette conscience morale qui est raisonnable, qui est humaine. Ça, c'est une faute. Et normalement, si on est un peu équilibré, etc., eh bien, quand on a fait une faute, on sent qu'on a fait une faute et on s'en accuse, ou bien on veut le réparer, ou bien en tout cas, on a le sentiment qu'on est coupable et on a envie de sortir de cette faute. Mais le péché, c'est autre chose. Alors, c'est quoi ? C'est quoi en plus ? Le péché, évidemment, c'est aussi une faute. Mais c'est une faute qui est reprise dans une dimension supérieure. C'est peut-être la même faute, mais qui est vécue face à Dieu et face à mes frères et sœurs comme enfants de Dieu, comme personnes qui ont été créées par Dieu pour la communion avec Dieu et notre communion mutuelle. Ce n'est pas simplement une solidarité humaine, je dirais horizontale, c'est aussi une solidarité avec Dieu, qui est notre Père, justement. Et donc le péché est en fait un concept théologique, la faute est un concept philosophique, dirais-je, hein, tandis que le péché est vraiment un concept théologique. Si vous avez quelqu'un qui n'a pas la foi, je caricature un peu, mais quelqu'un qui n'a pas la foi, ben normalement, le péché, lui, ça ne veut rien dire. Parce qu'on lui dit que le péché, c'est l'offense à Dieu. Mais si Dieu n'existe pas, il n'y a pas d'offense à Dieu. Hein. Mais, attention, c'est peut-être la même faute. Hein. C'est peut-être la même faute, mais pour un croyant, est en plus un péché. Mais pour l'homme qui est agnostique, par exemple, parfois il y a des chrétiens qui disent « Ah ben, s'il n'y a pas l'évangile, alors on fait le bien et le mal, ça n'a aucune importance. » C'est pas vrai. Les gens qui n'ont pas l'évangile, ben, ils ont quand même une conscience morale. La société s'organise quand même indépendamment de la révélation. Mais donc, par exemple, moi je ne sais pas, moi, si je prends le péché d'adultère, ça a c'est une faute morale que l'on peut sentir à ce niveau-ci. Mais évidemment, c'est aussi par rapport à Dieu, par rapport à mon épouse, par rapport à mon époux, etc., avec lequel je suis marié religieusement et avec lequel je suis dans un destin de grâce, etc., ça prend une autre dimension. C'est la même faute, mais qui ici a une dimension supplémentaire. Alors voilà, c'est ça aussi qu'il faut petit à petit intégrer, hein, voir que ces fautes sont des choses qui touchent Dieu et qui touchent mon prochain, en tant qu'un congénère de la même espèce animale, hein, mais en tant qu'un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu, avec lequel j'ai peut-être une alliance toute particulière par un sacrement, par, dans la famille, etc. Donc voilà, ça c'est une distinction, je crois, très importante. Et c'est justement cela aussi que la première semaine des exercices veut nous faire percevoir. Hein. Il y a peut-être beaucoup de choses qui peut-être même au niveau de la faute sont des petites choses, hein, supposons ici, ben, c'est un petit machin, mais lorsque je le mets ici, c'est plus grand, ça a une dimension supérieure, hein. faire du tort à quelqu'un qu'on aime vraiment, eh bien, lorsqu'il y a cette dimension spirituelle, ça peut prendre une autre proportion. Alors, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement plus grave ou plus difficile à réparer, non, mais ça a une autre dimension, hein, une autre résonance. Et je crois que c'est vraiment la délicatesse de l'âme, de la conscience chrétienne qui perçoit cela. Hein. Non pas pour se culpabiliser davantage, mais au contraire, une chose qui est interne à cette conscience-ci et qui n'est jamais là, c'est le pardon et la miséricorde de Dieu, et le rachat et le salut. On perçoit souvent son péché d'abord parce qu'on découvre que le Christ nous en sauve et parce que, parfois concrètement, on est pardonné dans le sacrement de pénitence ou par un autre chrétien qui a été blessé par nous et qui nous le dit, et qui dit au nom du Notre Père, ben, je te pardonne, etc. Donc ce n'est pas parce que c'est nécessairement plus grave ou plus catastrophique, hein, mais c'est plus fin, c'est plus délicat. Et c'est plus rempli d'espérance, parce qu'il y a une ouverture, hein, une ouverture vers la rédemption. Tandis qu'ici, il y a un peu un donnant-donnant. Ben, si je suis attrapé à faire la faute, ben, je dois payer mon amende, ou bien je dois, etc. Et puis après, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, il y a quelque chose de plus profond, de plus beau, me semble-t-il, dans la dimension de considérer sa vie comme une vie où l'autre est un partenaire de l'alliance avec Dieu aussi. Cela dit, j'examine un petit peu comment Jésus se comporte vis-à-vis de nos fautes, de nos péchés. Eh bien, Jésus guérit et pardonne. On le voit bien dans sa vie publique. Qu'est-ce qu'il fait ? Il guérit le mal physique, le mal du corps, hein, et il pardonne les péchés, le mal moral. Alors, vous voyez qu'avec ce schéma-ci, hein, le mal physique est plutôt ici, le mal moral est plutôt là. Cette espèce de rupture que je faisais entre les deux se situe plutôt dans un continuum. Hein. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas deux choses différentes, mais ça veut dire que quand même il y a beaucoup de cas un peu frontières, limites, hein, ici au niveau du psychisme sans doute, hein, où est notre responsabilité, où est notre... etc. Donc c'est une polarité, mais la polarité ne noie pas les deux choses l'une dans l'autre, hein, mais quand même donne un, me semble-t-il, un aspect moins dualiste, hein, à l'idée de mal moral et de mal physique. Pourtant cette distinction est très importante et j'ai voulu la faire dès le début. Jésus guérit le corps et il pardonne le mal moral, le péché. Alors ici je précise encore, le mal moral, ce n'est pas au niveau de la morale, c'est vraiment, hein, au niveau du péché. Mais Jésus, comme on voit, n'a pas guéri tous ceux qu'il a vus. Il n'a pas guéri tous les malades. Pendant 30 ans, ben, il semble qu'il n'en ait guéri aucun. Et puis pendant 3 ans, il en a guéri quelques-uns, mais sans doute pas tous. Et le reste du temps, ben, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas couru après tous les malades et tous les estropiés pour les guérir. Ce n'était pas sa mission première. Il ne donne jamais l'impression, me semble-t-il, que la guérison physique est sa première mission sur Terre. Mais à l'occasion de cette guérison physique, bien sûr, il fait passer un message, et parfois à travers cette guérison physique. Bien sûr, à travers cette guérison physique. C'est important parce que nous sommes un corps et nous souffrons. Mais le premier but de Jésus est bien plus élevé que simplement une guérison physique. Pourtant, la lutte contre le mal physique et le mal moral sont intimement liées, comme je vous l'ai dit, hein, ils sont fortement imbriqués, mais ils sont aussi très nettement hiérarchisés. Très nettement hiérarchisés. Jésus, à plusieurs moments, indique très bien que le mal physique et le mal moral, ou le péché, sont deux choses hiérarchisées dans le sens de le mal physique est plus important, hein, et le mal plus spirituel plus important et le mal physique, voilà. Par exemple, ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme. C'est très clair, hein? Matthieu 10, 28, et les parallèles, Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent rien faire à l'âme. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il en vient à perdre son âme? voilà, hein, un maximum de bien physique ne pèse pas par rapport à, au mal moral de perdre son âme. Par parenthèse, c'est un verset qui a converti Saint François Xavier. Saint François Xavier, le jésuite, faisait des exercices avec Saint Ignace et un jour il est tombé là-dessus et il s'est vraiment posé la question s'il n'était pas occupé à essayer de conquérir le monde et de perdre son âme. Donc Jésus guérit et pardonne. La fragilité constitutive de l'homme, ça c'est un point que je trouve très important et qui vient vraiment de l'Ancien Testament. La fragilité constitutive de l'homme. Souvent la philosophie occidentale présente la relation entre le créateur et la créature comme une relation où apparaît d'abord la finitude, l'infini qui n'a pas de limite et le fini qui a des limites. Et ces limites, ça veut dire quoi? Ça veut dire un enfermement, une frustration, une espèce de jalousie. Souvent, la philosophie occidentale présente les choses comme ça. Hein, le fini, ben, il est rabaissé. Quoi, hein. Il doit supporter cette finitude. L'anthropologie de l'Ancien Testament, et encore actuellement de toute la philosophie juive d'ailleurs, parce qu'il y a une pensée juive très riche, hein, avec Rosenzweig, Levinas et ces gens-là, parle davantage de la faiblesse de l'homme, de la fragilité de l'homme. Pas la faiblesse morale, la faiblesse physique de l'homme, sa fragilité. Il n'est que chair, bassar. Chair, bah, pas au sens du péché de la chair, hein, mais au sens de comme une fleur des champs qui pousse un jour, se fane et puis disparaît. Toute chair est fragile. C'est un très beau concept, hein, de l'Ancien Testament et de la pensée juive. Hein, concept d'humilité, l'expression biblique. Ne désigne pas donc quelque chose de mauvais, mais au contraire une condition corporelle et historique qui rend l'être humain précaire, labile, ça veut dire capable de tomber. La fragilité, comme on l'a vu en méditant le péché de David, n'est pas la première chose qu'on lui reproche. La fragilité, c'est le lieu où l'homme trouve peut-être l'occasion de pécher, mais elle n'est pas la cause du péché. Elle ne constitue même pas une tentation ou une inclination au péché. La fragilité de l'homme, c'est qu'il est instable. Et que c'est dans cette situation instable et fragile qu'il exerce sa liberté. Cette faiblesse est la condition normale de l'homme, condition dans laquelle Dieu l'a créé. Dieu l'a créé fragile. Il l'a mis au monde fragile. Et il a trouvé que c'était bon et très bon. Il n'y a pas de raison de penser qu'en faisant cela, Dieu n'a pas agi avec bonté. Il a créé un être fragile parce qu'il était plein de bonté par rapport à cet être. Alors bien sûr, le péché peut venir sur cette fragilité, hein, comme une tentation de refuser d'être fragile. L'homme veut être tout sauf fragile. Il veut être fort, il veut être autonome, indépendant, mobile, rapide, maître. Il n'accepte pas facilement cette fragilité. Il ne l'accueille pas. Dieu n'a pas fait un Superman. Non, il a fait un homme simple, fragile. Et je crois que nous avons à méditer et à contempler cette fragilité et à l'aimer. Ça fait partie de notre action de grâce, je crois, de la création, de nous rendre compte ce que nous sommes et d'en remercier le Seigneur. Cette fragilité sont l'œuvre bonne de Dieu. Regardez les parents, par exemple. Les parents qui ont un enfant tout nouveau-né. Ben, cet enfant est super fragile. Super fragile. Est-ce qu'ils sont fâchés parce qu'il est fragile? Non. Ça fait tout son charme. Ça fait qu'il demande beaucoup d'amour, beaucoup de soins, beaucoup de tendresse. Ça fait partie de sa beauté. Ça fait partie du cadeau qu'il est pour ses parents, hein, d'être ainsi fragile. Alors c'est un, bien sûr, c'est un souci. Ça demande beaucoup de précautions. Mais les parents n'ont pas l'idée de dire, bah, tiens, moi je voulais un enfant qui soit en béton armé. Mais non, pas du tout. Hein. Mais non, on sait bien ça. On sait bien que l'enfant est fragile. Mais justement, il naît pour, à travers cette fragilité, découvrir toutes sortes de choses bonnes qui lui sont données en germe, tout petit, hein, et qui vont finalement être comme la fleur qui s'épanouit et qui fait la joie de ses parents. Ses parents qui prennent soin de lui et qui se réjouissent. Même de prendre soin éventuellement des petits bobos et des petites maladies qu'il va avoir, parce que voilà, c'est une occasion d'entrer en communication et de donner son amour. Chez Jésus, on ne voit jamais qu'il y ait châtiment. Est-ce que Jésus punit ? Est-ce que Jésus punit ? Parce que quand on lit l'évangile, d'un bout à l'autre, on se dit, tiens, moi je vais chercher Jésus qui punit. Alors il y en a un qui m'a dit, oui, il punit souvent. Où ça ? Ah ben dans les paraboles, hein, on coupe la tête là des méchants à la fin. Oui, mais c'est dans les paraboles. Hein. Il y a quand même la distance de la parabole. Ah non, il a dit qu'il fallait torturer, etc., jeter dans les ténèbres extérieures. Oui, évidemment, c'est un genre littéraire quand même, je crois qu'on peut dire, hein, vous serez d'accord avec moi, hein, que c'est pas Jésus qui veut qu'on fasse ça. Hein. C'est Jésus qui explique quelque chose à travers une image forte. Mais Jésus lui-même, je ne le vois jamais punir personne. Oui, de temps en temps, il engueule un peu les pharisiens, hein, il les secoue, mais il ne condamne pas. Il ne condamne pas. Hein. Voilà, ça me semble très important. Et même Judas. Alors on rapporte parfois cette parole, un malheur à cet homme, il aurait mieux valu qu'il ne naisse pas. Est-ce que c'est une condamnation ? Ben, je crois que d'abord le mot qui est utilisé, en tout cas dans le grec, c'est « ouai ». Ça veut dire « ouïouïouï ». Ouïouïouï, cet homme, il aurait mieux valu qu'il ne naisse pas. Ça veut dire « voilà, on est vraiment mal parti avec ça hein. ». Mais je ne crois pas que c'est une condamnation. Hein. C'est le mot, en tout cas, « ouai » qui revient souvent dans le Nouveau Testament. Hein. « Malheur à vous, les riches », c'est la même chose. Hein. « Ouh là là, vous, les riches ». Mais je ne crois pas que ça va s'entendre nécessairement comme une condamnation. C'est « attention, attention, hein, c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. » C'est un peu cette idée-là. Et donc Jésus ne voit pas de punition terme à terme. Vous avez fait ça, donc vous êtes puni comme ça. D'ailleurs, au contraire, en Jean 9, par exemple, hein, vous avez l'aveugle-né. L'aveugle-né qui est assez... Gouailleur d'ailleurs, hein, il va un peu se moquer des pharisiens et tout le monde. Hein. En passant, Jésus vit un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Vous vous souvenez de cet épisode, hein ?« C'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit aveugle ?» Eux voient, hein, péché, punition. Et Jésus répond, « Ni lui ni ses parents n'ont péché. » Mais, alors là, il faut comprendre, hein, mais c'est pour qu'en lui se manifestent les œuvres de Dieu. Oh là là, ça, il va un peu loin peut-être. Hein? Mais enfin, en tout cas, qui dit très clairement que ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché. C'est autre chose. Et dans l'occurrence, eh bien, c'est la guérison qui va manifester la gloire de Dieu. Et on verra bien que cet aveugle-né, il est très content, non seulement d'être guéri, mais de pouvoir un peu taquiner les pharisiens, de dire « moi je suis disciple, hein? Vous aussi vous voulez être disciple de Jésus hein? ?» Voilà, Jésus ne rejette pas qu'il y ait un lien comme symbolique entre quelque chose qui se passe et une conséquence apparente. Mais il est toujours très prudent. Par exemple, je vous rappelle cet épisode de Pilate qui avait massacré une série de gens qui étaient occupés à offrir des sacrifices et puis la tour de Siloé qui était tombée sur d'autres, etc. Et alors on rapporte à Jésus... Hein, en Luc 13, là au début de Luc 13, on rapporte des malheurs qui se sont passés. Pilate a massacré des gens. Et puis qu'est-ce que Jésus répond à cela ? Il répond, vous périrez tous de la même manière si vous ne faites pas pénitence. Ah bon ? Donc eux, ils faisaient des sacrifices interdits selon Pilate, hein, ils ont été tués. Eh bien vous, vous allez tous périr de la même manière si vous ne faites pas pénitence. Donc ça veut bien dire qu'il... ne mettait pas un lien direct de cause à effet, mais qu'il mettait la barre un peu plus haut en parlant de faire pénitence, de se convertir. Et puis la tour de Siloé, ça c'est une catastrophe naturelle, ce n'est pas un mal moral, c'est un mal physique. Et Jésus répète exactement la même formule. Donc il la répète deux fois. Hein. Vous péririez tous de la même manière si vous ne faites pas pénitence. Luc 13, 3 et 5. Pour Jésus, le péché est bien plus grave qu'aucune maladie et qu'aucun malheur. Alors ça, c'est évident pour Jésus, mais c'est loin d'être évident pour nous, évidemment. Pourtant, c'est clair pour Jésus. Je ne vois nulle part Jésus s'apitoyer de manière intense sur le malheur physique des hommes. Je ne le vois pas. Parfois, il est ému jusqu'aux larmes sur le malheur d'une personne, de ce qu'une personne vit. Lazare, ses sœurs, etc., oui. Mais il ne se lamente pas parce que la mort existe. Il ne partage pas l'idée que ce qui est le plus triste, c'est qu'on va mourir. Non. Il partage, oui, la souffrance personnelle des gens à l'occasion de la réalité de la mort. Hein. Mais il ne remet jamais en cause cette faiblesse congénitale de l'homme, me semble-t-il. Il ne dit jamais pourquoi mon père n'a pas fait un monde immortel. Non, il ne dit jamais ça. Il accepte les choses telles qu'elles sont là et il injecte une autre idée. Hein. C'est que la santé de l'âme est bien plus importante. Quand on lui annonce même que Lazare est mort, il n'a pas l'air de bouger beaucoup. Il reste encore 2 jours là-bas. Et puis quand on lui dit qu'il est mort, il dit « Je me réjouis qu'il est mort. Hein, parce que comme ça, je pourrais... » Et ça veut dire quoi, ça? C'est quand même étonnant. Hein. Je me réjouis de ne pas avoir été là lorsqu'il est mort. Parce que maintenant, voilà. Donc on voit que Jésus a une attitude très, très nette vis-à-vis de la souffrance physique. Pour lui, ce n'est pas ça, hein, la chose dont il vient sauver l'homme. Il vient donner un autre message. Et je crois que cette réalité que Jésus est occupé à nous révéler, d'une certaine manière, les philosophes peuvent même la découvrir par eux-mêmes. Parce que je ne sais pas si vous connaissez des philosophes aussi clairs et nets que, par exemple, Socrate ou bien Kant. Hein, mais eux, même au niveau de la raison, ils disent des choses assez extraordinaires. Vous connaissez peut-être cette citation du Gorgias de Platon, où Socrate dit « Commettre l'injustice est pire que la subir. Il vaut mieux subir le mal que de le commettre. » Ça, c'est Platon qui rapporte les propos de Socrate, hein, dans un dialogue qui s'appelle le Gorgias. Et cette citation m'a beaucoup impressionné parce que mon professeur de poésie l'a cité souvent, parce qu'un peu plus bas, il est même fait allusion à un supplice très particulier qui est la crucifixion. En effet, donc son interlocuteur lui dit « Mais enfin, non, c'est quand même pas vrai, regarde, hein, si on coupe quelqu'un en morceaux, si on le fait brûler dans la poix, si on le crucifie, tu trouves que c'est mieux que d'être le bourreau ?» Et Socrate dit oui. Et donc le mot « crucifié » se trouve dans ce dialogue de Socrate avec Polos, dans le Gorgias. Vous vous souvenez de Matthieu 5 où Jésus dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de pécher, arrache-le et jette-le loin de toi. » Il vaut mieux ne pas pécher que d'avoir ces deux yeux et de pécher. Alors, avis aux fondamentalistes, hein, si vous prenez ça au pied de la lettre, j'ai jamais vu beaucoup de chrétiens borgnes ou manchots. Hein, mais dans d'autres occasions, on est fondamentaliste lorsque ça fait moins mal. Hein. Lorsque ça fait moins mal, on est fondamentaliste, mais quand ça fait un peu mal, alors on dit oui, c'est symbolique. Non, moi je trouve que si on est fondamentaliste, il faut l'être jusqu'au bout. Eh bien, personne ne l'est à ce moment-là, parce qu'on a tous compris ce que ça voulait dire. On a tous compris. Jésus montre toujours que le péché est plus grave que le mal physique. Qu'est-ce qu'il est le plus facile de dire? Tes péchés te sont remis ou lève-toi et marche? Dit-il aux pharisiens qui murmurent parce que Jésus a d'abord pardonné les péchés. Qu'est-ce qui est le plus facile? Tout le monde dit, ben c'est plus facile de dire, hein, tes péchés sont remis parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et on sait pas ce... Bon, alors on dit, c'est plus facile. Mais non, c'est l'inverse. Et pour que vous sachiez justement, hein, que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralysés, lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. Pour Jésus, ça c'est plutôt secondaire. Mais ça vient comme preuve pour ce pouvoir de pardonner les péchés, de sauver du mal moral, de sauver du péché. Et Jésus, en Jean 5, lorsqu'il a guéri quelqu'un, là, il lui dit instantanément, « Te voilà guéri, ne pêche plus désormais. » Et vous continuez, « Il t'arriverait pire encore. Hein? » Tu es guéri, tant mieux, ben va. Et ne pêche plus, parce que si tu pêches, il va t'arriver pire encore. Quoi ? Une autre maladie ? Non, non, mais le péché lui-même, hein, qui est pire que la maladie dont il vient d'être guéri. Voilà, je prends maintenant la solidarité des hommes entre eux dans le péché. Donc on a médité le péché de tout homme. Maintenant le péché des hommes ensemble. Le péché de nos premiers parents, selon saint Ignace. Il y a une fraternité dans le péché. Il y a une solidarité. La révélation la met bien en évidence. Nous pouvons déjà la voir à un niveau philosophique, si on veut, hein, niveau politique, etc. Le mal des uns entraîne le mal des autres. Nous sommes solidaires. Alors nous trouvons souvent que cette solidarité, bon, on ne voit pas très bien comment elle s'effectue. Bon, vous connaissez la blague de celui qui vient se confesser de calomnie. Alors le curé lui dit, ben, comme pénitence, tu prendras une poule, hein, et tu vas la déplumer. Et puis tu reviendras. Et alors le curé, quand il revient, il lui dit, ben maintenant, il y a la seconde partie de la pénitence, il faut ramasser les plumes, hein, qui sont parties au vent. Hein. Ben, c'est ça la calomnie. Hein. On dit des paroles, on croit que ça n'a aucun effet, et en fait, ça se dissipe partout dans le monde, et il n'y a plus moyen de rattraper le mal qu'on a fait. Hein. En fait, voilà, donc, nous sommes solidaires les uns des autres dans le péché, nous sommes solidaires de nos premiers parents, d'abord parce qu'ils nous ont donné la vie, et puis aussi parce qu'il y a le péché, bien sûr. Mais souvent, nous trouvons que, dans cette solidarité, nous payons trop cher nos petits péchés. Hein. Que les châtiments que nous subissons sont disproportionnés. Combien de fois est-ce qu'on entend dire, hein, et je respecte tout à fait ces paroles, hein, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que m'arrive ce malheur? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour que m'arrive ce malheur? Et parfois un très grand malheur, hein, donc je respecte tout à fait ce genre de paroles. Mais, j'entends souvent, moins souvent des gens qui disent, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour être en bonne santé, hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des enfants si gentils ou bien une profession si intéressante? Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi, moi, Seigneur, pour me faire tant de bien? On entend moins souvent cela, pourtant, je crois que beaucoup d'entre nous pourraient le dire. Hein? En tout cas, moi, parfois, je me sens l'envie de le dire. Hein. Pourquoi, Seigneur, moi? Pourquoi tu m'as choisi, moi, pour me donner tant de choses? Mais c'est surtout quand ça va mal qu'on dit, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi, moi, hein, pour me faire ce sale coup, quoi. Hein. Bon, ben, oui. Ben, peut-être que ça n'a rien à voir avec mes péchés, mais voilà, ça tombait sur moi, d'accord. Ben, j'ai rien fait de spécial, ben... Mais avant ça, j'ai profité vraiment de la grâce et de la bonté du Seigneur pendant des années. Je ne l'ai pas beaucoup manifesté. Hein. La révélation donc nous montre à quel point nous sommes solidaires les uns des autres. La citation de Romains 3, au verset 9, reprend un psaume, le psaume 14. Alors là, vous voyez que saint Paul va enfoncer le clou, hein, pour dire que nous sommes tous pécheurs et les uns à cause des autres. Romains 3, versets 9, 10, 11, 12. Ce n'est pas sur votre feuille, non? Nous avons établi que juifs et grecs, tous sont soumis au péché. Comme il est écrit, c'est le psaume 14, il n'est pas de juste, pas un seul. Il n'en est pas de sensé, pas un qui recherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Il n'y en a pas qui fasse le bien, non, pas un seul. Si on n'a pas compris, saint Paul le dit 3, 4, 5 fois. Hein. Voilà, nous sommes tous enfermés sous le péché. Mais il nous a tous enfermés sous le péché. Il nous a enfermés, enfin, nous sommes sous le péché pour qu'il puisse faire grâce à tous. Parce que c'est ça, hein, la conclusion du chapitre 5. Paternité et filiation. Il y a aussi, bien sûr, une solidarité non seulement horizontale des hommes ensemble, voilà, au XXIe siècle, mais aussi les siècles antérieurs pèsent sur nous, et nous pesons sur les siècles futurs, nous le savons bien. Là aussi, il y a une solidarité pour le bien. avant d'être une solidarité pour le mal. Hein. Si aujourd'hui, ben, les sciences ont fait tellement de progrès, si l'économie marche comme ça, c'est à cause de centaines de générations de gens qui ont travaillé, hein, intellectuellement et physiquement, pour que nous en soyons là. Là aussi, on oublie parfois. Hein. On voit bien tout ce qui s'est fait de mal dans le passé, mais ce qui s'est fait de bien est très important. Comme disait Hegel, reprenant une image de Saint Bernard, nous sommes comme des nains juchés sur les épaules de géants. Hein. Nous sommes plus grands qu'eux, oui, mais nous sommes plus grands qu'eux parce que nous sommes un petit nain sur leurs épaules. Quoi, hein. Et nous voyons plus loin, c'est vrai. Nous arrivons à faire mieux. Pascal aurait été bien étonné de nos ordinateurs, Einstein aussi, mais il était plus malin que nous, mais nous, on les fait quoi. Hein. Ben, pas moi en tout cas. Voilà. Il y a donc une solidarité, hein, pour le bien et pour le mal, qui est verticale, qui est aussi horizontale. Alors nous pouvons dire, oui, mais nous n'aurions pas fait comme nos pères. Hein, eux, ils ont fait les inquisitions, ils ont fait toutes sortes de bêtises, nous aurions mieux fait. Hein. Mais Jésus a une parole aussi pour ces gens-là. Hein, il dit aux pharisiens, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes, tout en disant, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Exactement cela. Hein. Nous aurions fait mieux que nos ancêtres. Ainsi, vous en témoignez contre vous-même, vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous comblez la mesure de vos pères. Voilà, Jésus souligne que... Hein, surtout ceux qui se désolidarisent du passé en disant « nous aurions mieux fait qu'eux », eh bien d'habitude, justement, eh bien, ils prétendent être meilleurs, etc. Ils sont dans une hypocrisie qui, d'habitude, cache qu'ils sont moins bons. Mais il y a aussi la solidarité avec le Christ. C'est ce que souligne Romains 5. Alors j'ai mis quelques abréviations comme vous voyez dans le texte, hein, mais vous arriverez bien à lire. De même que la faute d'un seul a entraîné sur tous une condamnation, Romains 5, 18, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification. L'œuvre d'un le péché d'un seul, c'est Adam, la justification d'un seul, enfin, la justice d'un seul, c'est le Christ. Et saint Paul met une proportion, une similitude. De même que la faute d'un seul, Adam, a entraîné sur tous une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul, le Christ, procure à tous une justification. Mais il va aller encore plus loin. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Si par la faute d'un seul, la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude ? Donc, saint Paul indique bien que la proportion n'est pas seulement de, je dirais, hein, comme la faute d'un seul, ainsi la justice d'un seul, mais il dit, comme la faute d'un seul, bien plus, bien plus, polloi malon, hein, bien plus la justice d'un seul va nous sauver. Donc là où, là où le péché a abondé, voilà la mesure, hein, eh bien, la grâce a surabondé, la mesure ici est bien plus grande que là. Donc, autrement dit, bien, l'histoire du péché est une histoire triste, peut-être, mais l'histoire de la rédemption est une histoire qui, non seulement, hein, remet cette histoire en route, mais lui donne davantage. La rédemption nous remet à un niveau plus élevé, dirais-je, que l'état de péché dans lequel... Duquel nous sommes tombés, l'état de grâce duquel nous sommes tombés. Et pour terminer, il y aura bien sûr un chapitre sur les anges et les démons, hein, que tout le monde attend bien sûr pour savoir enfin ce qu'on va savoir là-dessus. Hein. Alors j'en donne un tout petit apéritif ici, en vous citant Jean 8. Ça, c'est saint Ignace qui nous fait donc méditer. Hein. Bien sûr, je suis un pécheur, mais attention, je ne suis pas le seul au monde, je suis pris dans une solidarité. Et le tout premier qui a péché, c'est Satan, c'est Lucifer. Non, non, c'est même au-dessus d'Adam. Hein, au-dessus d'Adam. Il veut montrer, Saint Ignace, hein, qu'il faut méditer même cette espèce de liberté pure d'une créature invisible. Ben, on en parlera après pour savoir de quoi il s'agit. Hein. Mais il fait remonter vraiment la décision du mal, même au-delà de nos premiers parents. D'ailleurs, le serpent symbolise cela. Et justement, ce père du mensonge, le diable, il est là avant nous. En vérité, je vous le dis, tout homme qui commet le péché est un esclave. Vous avez pour père le diable, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir, dit Jésus. Dès l'origine, il fut homicide. Alors attention, le mot homicide est très précis. Hein. C'est anthropoktonos, ça veut dire celui qui tue l'homme. Il n'a pas pris ça pour dire un meurtrier ou un méchant ou quoi. Non, c'est homicide au sens où il tue l'homme. Le père du mensonge tue l'homme. Il n'était pas établi dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit ses mensonges, il les tire de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge. Mais moi, c'est parce que je dis la vérité que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convaincra de mensonge? Donc voilà, il présente le diable, dont il parle ici clairement, hein, comme celui qui ment et qui tire le mensonge de son propre fond, de sa propre liberté. Et que c'est quand on écoute les mensonges du diable qu'on n'est plus capable de supporter la vérité qui est dite, hein, parce qu'elle fait trop mal. Voilà, je m'arrête ici parce qu'il est temps. Nous faisons une petite pause et puis on continue avec ceux qui veulent poser des questions.